Des maths, bonjour, de ce côté-ci du poste, c'est Yves Averti. Avec la complicité de Léo à l'enregistrement, nous recevons Pierre Douillard-Lefebvre qui vient de publier aux éditions Divergence « Maudite soit la guerre, manuel de résistance antimilitariste ». De manière subtile, au début de notre entretien, j'ai laissé entendre que son ouvrage paraît à un moment où l'on a l'impression qu'il n'y a plus d'opposition à l'armée et à la guerre. Et donc, pourquoi un tel titre, Maudite soit la guerre ?
L'idée, c'est de revisiter l'antimilitarisme à la sauce du XXIe siècle, donc de l'inscrire quand même dans l'actualité et notamment de donner des billes, des éléments pour les jeunes générations sur la question antimilitariste, parce que malheureusement, on en parlera tout à l'heure, cette question a été désertée par la gauche. Et donc, pour trouver un titre un petit peu sympa, je cherchais du côté de tous les slogans du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire. Évidemment, on pense à « guerre au palais, paix aux chaumières », enfin, pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes, etc. Mais ça faisait toujours un petit peu ronflant, un petit peu
figé. C'est toujours daté.
Toujours daté, et je me disais, bon, qu'est-ce qui pourrait faire écho à l'actualité et en même temps puiser quand même dans un héritage et une tradition, si j'ose dire, des luttes et des mouvements sociaux. Et donc, maudite soit la guerre, c'est notamment, pas seulement, mais c'est notamment l'inscription sur le monument aux morts de Jean Thiou dans la Creuse. Alors, je vous raconte un petit peu l'histoire, hein, petite commune de la Creuse, dont le maire a été mobilisé pendant la guerre des tranchées, donc il revient de la guerre des tranchées traumatisé, évidemment, écœuré par la guerre. Et dans l'après-première guerre mondiale, l'État français va déployer des fonds considérables pour que chaque commune, chaque petit village de France ait son monument aux morts de la guerre 14-18. Donc il y a beaucoup d'argent qui est débloqué, tous les maires doivent obtempérer, doivent trouver une représentation, etc. Donc souvent c'est des choses un peu patriotiques, des symboles un peu cocardiers, je sais pas, un soldat, un coq, des conneries comme ça. Et ce maire-là, donc, il va faire un pas de côté, si j'ose dire, et il va faire un monument aux morts avec un enfant, un écolier, on devine que c'est un écolier, qui lève le poing devant le monument aux morts et qui, avec l'inscription « Maudite soit la guerre », et on devine que c'est probablement un enfant qui a perdu son père pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, si c'est important, c'est aussi parce que, du coup, ce monument n'a pas été détruit, mais il a été désavoué par l'État français. Il n'a été reconnu que dans les années 80, et il y a un camp militaire à proximité de ce village, la Courtine, et les soldats, pendant des décennies, ils traversaient ce village de Jean Thiou, et ils avaient ordre de détourner le regard de ce monument aux morts en signe de désapprobation de ce slogan. Mais, et je finirai là, sur l'histoire de Maudite soit la guerre, en réalité, quand on creuse un peu, on voit que Maudite soit la guerre, c'est quelque chose qui puise bien avant, parce qu'on le retrouve déjà dans un film, un des premiers films, évidemment muet en noir et blanc, qui sort au début de l'été 1914, qui est un film belge, et qui est prémonitoire, qui dénonce la guerre juste avant la Première Guerre mondiale. Et on le retrouve également, ce slogan, par exemple, dans un chant de la Renaissance, que maudite soit la guerre, qui s'appelle le Comte d'Orange, etc. Donc en fait, on voit que ça traverse les époques, ce cri du cœur, contre la guerre et ses victimes, et en hommage à ses victimes.
Tu as déjà écrit sur la guerre, sur la fabrication des armes, c'est un super commerce, la guerre. Je vais poser plein de questions à la fois.
Ouais,
c'est-à-dire que tu dis qu'il fallait rénover l'idée, parce que l'antimilitarisme, on a l'impression que c'est ringard maintenant, et donc toi tu penses que ce n'est pas ringard, en utilisant ce terme « maudite soit la guerre », c'est en partant vraiment de l'histoire des gens qui se sont révoltés contre la guerre. C'est assez simple, il suffit d'être touché, on devient vite opposant à la guerre. Donc quand on est mort, il n'y a plus de problème, mais même si on est blessé, si toute sa famille est décimée, on peut vite facilement être opposant à la guerre. Et donc toi, tu as sous-titré « Manuel de résistance antimilitariste », ça veut dire qu'il y a un côté optimiste, tu penses qu'on peut faire quelque chose ?
Alors là, tu ouvres plein de questions.
Ah, je sais, je l'ai prévenu, mais on va s'en sortir.
C'est très bien. Tu dis que j'ai déjà écrit sur la guerre. En réalité, j'ai surtout travaillé sur la question de la répression, mais je vais quand même expliquer. En fait, il y a un lien, il y a une continuité entre les logiques de répression et de guerre, parce que quand j'étais lycéen, j'ai Je faisais des manifestations, hein, comme beaucoup de lycéens, au début du mandat de Nicolas Sarkozy, donc ça remonte maintenant à 2007, hein, ça nous rajeunit pas. Et j'ai reçu un tir de LBD à côté de l'œil qui fait que j'ai perdu l'usage de mon œil droit. Et à partir de là, j'ai voulu réfléchir à ce qu'étaient les armes de la police, comment elles étaient utilisées, par qui elles étaient fabriquées, à quelle doctrine elles répondaient, etc. Et donc, parce que souvent, les personnes qui ont été blessées, mutilées par la police, on a un sentiment évidemment d'injustice, mais aussi de ne pas savoir quoi faire, de ne pas comment transformer cette colère. Et moi, j'ai voulu un peu la transformer plutôt en réflexion et en piste de résistance. Hein, je vais y venir. Et donc, j'ai écrit quelques livres, enfin deux livres en particulier, sur la question des armes de la police et des logiques de maintien de l'ordre et de cette histoire-là. Et il y a un des livres qui s'appelle d'ailleurs « Nous sommes en guerre ». Alors, je ne savais pas que j'écrirais « Maudite soit la guerre » quelques années plus tard, mais « Nous sommes en guerre », c'est la parole de Macron au moment du confinement et du Covid, mais c'est aussi la parole d'un président qui se rêve en chef de guerre et qui, en fait, venait à l'époque de déployer une répression extrêmement féroce contre les gilets jaunes, mais aussi dans les quartiers populaires, et là, ces dernières années, en Kanaky, enfin, etc., etc. Et donc, mon travail, c'est de montrer qu'il y a une continuité entre la répression policière et l'action militaire, et il y a même une hybridation, il y a des méthodes, des armes qui sont utilisées à la fois dans le champ militaire et dans le champ policier. Des blindés, on a vu débarquer ces dernières années des blindés contre les manifestations. Voilà, ce sont des blindés de militaires. Il y a un lexique policier qui est emprunté au militarisme, etc.
Et ça, c'est nouveau.
Alors, on parlait de tout à l'heure de 14-18. Si on remonte 100 ans en arrière, c'était l'armée directement qui était envoyée face aux grévistes et aux luttes sociales. Donc, en fait, est-ce que c'est nouveau ? Non, si on remonte il y a 100 ans, il y avait l'armée qui tirait parfois sur la foule. C'est ça la réalité. Par contre, on va dire, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement, en gros, depuis, on va dire, l'après-68, il y a quand même eu un apaisement relatif des sociétés, une gestion de ce qu'on appelait du maintien de l'ordre qui reposait quand même sur, plutôt, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de blessés à l'époque et de répression, hein, mais plutôt sur une désescalade. Et là, ce qu'on voit depuis 20 ans avec une phase de néolibéralisme extrêmement agressive, de démantèlement des conquêtes sociales, de démantèlement des services publics, et donc de rébellions et de mouvements sociaux, c'est un durcissement très fort des États, la France, mais pas seulement, et donc une militarisation du maintien de l'ordre, avec, particulièrement en France, un usage de grenades, de balles en caoutchouc, d'armes mutilantes extrêmement dures, une explosion, on le sait maintenant, du nombre de personnes tuées lors d'actions de police, en particulier dans les quartiers. Hein, il me semble, 55 personnes tuées l'an dernier par la police. Si on monte 20 ans en arrière, c'était des moyennes autour d'une dizaine de personnes tuées par la police par an, ce qui est bien trop. Hein. Mais on voit qu'il y a vraiment une explosion du nombre de mutilés, du nombre de tués. Et donc, mon travail, c'est ça. Et ensuite, j'ai voulu pousser la réflexion sur la militarisation du régime politique en lui-même, puisqu'on voit qu'il n'y a pas seulement les violences policières, il y a également les manifestations qui sont interdites. On l'a vu avec la Palestine. On est le seul pays au monde où toutes les manifestations pour la Palestine ont été interdites en 2023 quand même. Il faut quand même le souligner. On est un pays où il y a une explosion des dissolutions d'associations. Tout ce qui est associations maintenant antifascistes, soulèvement de la terre, médias indépendants peuvent être visés par des dissolutions. Et donc on en arrive à ce qu'on disait, à maudite soit la guerre. L'étape de plus dans cette surenchère autoritaire, finalement, c'est la militarisation officiel, direct, avec un discours de va-t'en guerre et belliciste assumé. Et c'est ce qu'on voit depuis 2 ou 3 ans en France. Hein. C'est l'aboutissement un petit peu de ce processus. C'est des discours qui parlent d'aller en guerre. Macron qui parle de sacrifice de la jeunesse. Un chef d'état-major français qui parle de il faut accepter de sacrifier nos enfants. Et une omniprésence comme ça dans tous les médias, tous les jours quasiment, d'annonces sur l'armement, etc. Alors pourquoi manuel de résistance ? Voilà, j'en viens à la dernière question que tu posais. Manuel de résistance, parce qu'au début de l'année dernière, au début de l'année 2025, il y a eu une annonce gouvernementale selon laquelle le gouvernement allait envoyer à tous les Français un manuel de survie. Très étonnant. Et encore une fois, ça contribue à cette espèce de climat anxiogène qui est attisé délibérément par le gouvernement. Et ce manuel de survie, il a été envoyé, il me semble, cet automne. Et il est très étonnant parce que c'est un manuel qui dit, en gros, chacun pour soi, qui met sur le même plan les menaces écologiques, par exemple, je sais pas, catastrophe climatique, menaces de type pandémie, menaces nucléaires et guerre. Comme si tout était, en fait, comme s'il y avait une espèce de fatalité, le désastre allait arriver, puis c'était comme ça. Et donc ce manuel, il est très étonnant parce qu'il dit surtout, ayez de l'eau chez vous, enfin des conseils très infantilisants, un peu cons, et obéissez aveuglément aux autorités compétentes. Donc c'est vraiment à ça que sert le discours de guerre et de désastre. Et donc pourquoi manuel ? Donc quand il y a eu l'annonce au début de l'année dernière d'un manuel de survie, je me suis dit, putain, les enfoirés, ils sont vraiment en train de conditionner la population. Et donc j'ai contacté ce très bon éditeur, Divergence, et je lui ai dit, cette année, il faut absolument qu'on fasse un contre-manuel.
Alors ce livre est très court, il y a des infos dans tous les paragraphes, c'est idiot à le dire, mais en fait, moi j'ai eu l'impression qu'on fait un tour d'horizon général de l'antimilitarisme, mais actualisé. C'est-à-dire que on a parlé des militaristes, il y en a eu toujours, mais avant, on a l'impression qu'il y avait des antimilitaristes. Moi-même, j'étais objecteur de conscience, parce qu'il y avait un mouvement. C'est vrai qu'on nous demandait d'aller à l'armée, et je voulais pas y aller, mais c'était plus large. C'est-à-dire que j'étais contre l'armée, en fait. Je suis antimilitariste. Et donc, après, bon, l'armée, la conscription a été supprimée, donc c'était moins évident d'être antimilitariste, on va dire. Et c'est quand le problème revient qu'il faut l'être, je pense, parce que il y a toujours eu des militaristes, toujours des fabricants d'armes. La France, comme tu le rappelles dans ce livre, est le deuxième exportateur d'armes au monde. Le deuxième, c'est extraordinaire, après les États-Unis d'Amérique. Et donc, toi, Tu veux rénover l'antimilitarisme, je ne sais pas comment dire. Tu dis des chiffres d'aujourd'hui, tu encourages les gens à monter des actions, on en parlera après, on peut réagir vraiment, mais toi tu as pensé qu'il fallait faire de l'antimilitarisme de 2026 et pas ce qu'on a connu. Alors je vais faire des questions longues, comme ça tu feras des réponses longues aussi. Il y a un truc que tu as dit dans la conférence que j'ai été voir aussi, je ne sais plus si c'est dans le livre, c'est que même, il n'y a plus de chansons antimilitaristes, mais il n'y a pas de nouvelles paroles, il n'y a plus d'arguments antimilitarisme, tu penses ?
Alors, il y a deux grands points là-dessus. Il y a d'un côté l'idée que finalement, il y aurait moins d'antimilitarisme parce qu'il y aurait moins de guerre. Alors là, je mets un petit bémol d'entrée de jeu, c'est-à-dire que les guerres n'ont jamais pris fin, mais elles étaient loin de nos yeux. Et je vais très rapidement, la France, par exemple, est un des rares pays qui est constamment en guerre. C'est-à-dire que depuis les décolonisations dans les années 60, la guerre a mené 60 opérations militaires, une soixantaine d'opérations militaires en Afrique. C'est-à-dire quasiment une par an depuis les décolonisations. Sans compter tous les partenariats militaires avec tout un tas de régimes autocratiques en Afrique, dans l'ancien précaré colonial français, si j'ose dire, mais ailleurs, formations directement. Enfin, la France a directement formé les armées et les services policiers post-coloniaux de certains régimes en Afrique, etc. Donc il y a vraiment ce partenariat très fort. La France n'a jamais arrêté de mener des guerres. Et j'ai envie de dire, même, c'est la raison d'exister de son appareil militaire ou industriel, parce que, comme tu l'as dit, la France est désormais deuxième exportateur d'armes du monde. Pour vendre des armes, il faut qu'elle les utilise. Il faut qu'elle montre au monde, regardez, nos rafales fonctionnent bien, nos missiles sont efficaces, on est capable de projeter une armée. Hein, il dit ça, une capacité de projection de l'armée. On est un des rares pays du monde, hein, ça aussi, il faut le rappeler, qui projette des armées à plusieurs milliers de kilomètres. C'est pas tous les États, y compris occidentaux, qui sont capables de le faire. Et donc la France a constamment besoin, comme les États-Unis, comme tout un tas de pays impérialistes, de mener des opérations pour faire fonctionner son appareil militaire. Par contre, effectivement, là, on a un retour de la question militaire vraiment sur notre sol, dans la population, qui est très, très forte. Et il y a vraiment un travail sur les esprits. Alors, sur la disparition de cet antimilitarisme, au moment où on en a le plus besoin, oui, je te rejoins complètement. Il y a vraiment eu un affaissement de l'antimilitarisme au moment de la suppression du service. Ça, c'est clair, net et précis, parce que l'antimilitarisme populaire, c'était les jeunes qui voulaient pas aller faire le service, qui essayaient de se faire réformer ou qui étaient carrément objecteurs de conscience. Il y avait quand même, comme ça, un très fort sentiment de rejet. Mais là, j'ai envie de dire, donc, c'est après la sortie du bouquin, hein, mais il y a eu une annonce de Macron sur un retour du service militaire volontaire. et potentiellement, là il a ouvert la porte en réalité à quelque chose qui peut, pour l'instant volontaire, mais il a ouvert la porte à quelque chose d'inquiétant qui dit potentiellement on va étendre en fait. On le sait avec ces mesures-là, ils ouvrent une porte, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet, hein. On voit vraiment ça sur les lois aussi sécuritaires. On permet un petit peu de surenchère sécuritaire ou militaire, et après ensuite, bon, c'est très dur de revenir en arrière parce que on dira, mais vous vous rendez compte, vous n'allez pas supprimer cette mesure-là. Et donc, en fait, en réalité, souvent, ces mesures militaro-policières, elles ne font que s'aggraver. Donc là, il a ouvert la porte. Et ce qui est gravissime, c'est qu'en France, c'est qu'il n'y a eu aucun débat. Il l'a annoncé en novembre. Ça y est, c'est officiel. Ils sont en train de recruter des jeunes pour le service militaire volontaire. Il n'y a pas un débat. Moi, je fais des revues de presse sur ces questions-là, évidemment, puisque c'est mon sujet. Il n'y a pas eu un débat ni dans la presse nationale, avec des pour et des contre éventuellement, pourquoi pas, ou ni sur les grandes chaînes d'infos. Il n'y a pas eu, ce n'est pas un
débat,
sujet.
Ça voudrait dire même au Parlement, il n'y a pas eu de discussion.
Merci, très excellente transition, parce que en Allemagne, le gouvernement allemand a fait donc l'Allemagne est en train de se remilitariser extrêmement vite, plus que la France d'ailleurs. Elle part de plus loin, hein, parce que c'est un pays qui a globalement été démilitarisé après les événements qu'on connaît. Et donc là, l'Allemagne veut avoir la première armée d'Europe, donc plus grande que la France. Et donc ils ont instauré la même mesure qu'en France, c'est-à-dire un service militaire volontaire. Sauf qu'en Allemagne, c'est encore à peu près, il y a encore à peu près un fonctionnement vaguement démocratique dans ce pays, contrairement à la France. Et en Allemagne, du coup, il y a eu 3 mois de débats parlementaires, avec des débats assez costauds, ce qui a forcé certains partis de gauche qui étaient un peu hésitants à se positionner sur la question. Il y a eu évidemment des débats dans les médias pour et contre ce retour du service militaire volontaire, la place de l'armée dans la société, etc. Et ce qui a conduit à des grèves lycéennes et étudiantes contre le service. Mais en France, ce sujet n'existe tout simplement pas. Donc on ne peut même pas en débattre puisqu'il n'est même pas traité. Et donc un des enjeux de ce livre a été soulevé par des sondages qui sont constamment rabâchés par les médias qui disent qu'il n'y a plus d'antimilitarisme dans la jeunesse. Ça aussi, ça a été un des déclenchements de ce bouquin. C'est une sociologue, Anne Muxel, qu'on entend régulièrement dans certains médias, qui dit « Ah, ce qui est formidable selon nos études, c'est que l'antimilitarisme qui était très fort dans les générations précédentes a disparu aujourd'hui dans la jeunesse. » Évidemment, puisque le sujet n'existe tout simplement pas, il n'est pas traité, il n'est pas présent dans les esprits.
Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons Larzac. De gré, de force, nous garderons Larzac.
La chanson du Larzac, écrite par Dominique Loquet, pour la lutte contre l'extension d'un camp militaire au Larzac entre l'Aveyron et l'Hérault entre 1971 et 1981. On écoute cette chanson en 2026 à un moment où il semble qu'il n'y a plus d'opposition visible à l'armée et à la guerre.
Il y a toute une contre-culture à rebâtir. Il y a toute une contre-culture à rebâtir parce que, comme tu l'as dit, dans ces années d'opposition non seulement au service, mais aussi à la guerre d'Algérie, à la guerre du Vietnam, à tout un tas de conflits militaires impériaux, il y avait une floraison culturelle antimilitariste. Moi, je suis tombé sur des fonds d'archives, par exemple, d'affiches. Il y avait une profusion d'affiches hyper créatives contre le militarisme, avec voilà, des jeux iconographiques, etc., contre les salons d'armement, contre les camps militaires, etc. Il y avait évidemment toutes ces grandes luttes emblématiques comme le Larzac, qui a quand même mobilisé toute une génération dans les années 70, avec des comités Larzac, donc contre l'extension du camp militaire, qui étaient présents dans la plupart des grandes villes. Il y avait des dessinateurs comme Cabu, qui publiait toutes les semaines des caricatures qui se moquaient de l'armée et qui dénonçaient aussi l'armée violemment. Il y avait des chanteurs, évidemment Boris Vian, le déserteur, Renaud, etc. Et effectivement, aujourd'hui, on est un petit peu démunis. Donc l'enjeu, c'est non seulement de donner un peu des munitions pour résister, mais c'est surtout reconstruire, contribuer en tout cas, à ma petite échelle, contribuer à rebâtir une culture antimilitariste en France.
Alors, ton livre vient de sortir. Est-ce que tu as l'impression qu'il a un impact ? Parce qu'en effet, personne n'écrit sur l'antimilitarisme, qu'il faut résister à la guerre. C'est impressionnant, quoi. Et donc, est-ce que ça a un impact, en dehors de passer sur Alternate FM ?
Alors là, tu es en train de titiller un point extrêmement douloureux, cher ami, parce que même si je suis très honoré d'être dans les studios d'Alternante, ce bouquin, donc c'est un éditeur qui est bien, hein, désolé, je fais la promo de mon patron, entre guillemets. Divergence, c'est un bon éditeur qui a une très bonne distribution, qui est une maison d'édition indépendante, certes, mais qui jouit d'une certaine reconnaissance depuis plusieurs années, et qui fait un très bon travail à l'égard de la presse. Et donc, effectivement, un des dirigeants de Divergence m'a dit « Ok, on y va, on le publie cette année, t'as raison, on va faire un coup éditorial, machin. » Il a vachement bien fait le boulot, il l'a envoyé à toutes les rédactions. Hein, c'est un boulot d'être éditeur, hein, c'est pas... Et donc, hop, il l'a envoyé en avant-première à toutes les rédactions, y compris les médias de gauche, Le Média, Blast, etc. Ils l'ont tous eu. Libération, Le Monde. Bon, je ne m'attendais pas à un triomphe, mais là, c'est une omerta absolue. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas eu une chronique dans un média français, à part quelques lignes dans Le Canard Enchaîné. Merci à eux. Mais je veux dire.
Même Politis,
même Bastamag, qui ont été tous relancés, hein, même Mediapart. Ils ont tous été relancés. Donc moi, je veux dire, même mes anciens bouquins qui étaient pourtant chez un petit éditeur...
Oui, sur la... entendu sur France Culture, alors. Donc voilà. Tu vois, tu as été médiatisé.
Sur la police, alors que c'était un sujet sensible à l'époque. Bon, heureusement, on a réussi à se bagarrer pour que la question policière soit quand même un vrai sujet. Parce que c'était pareil, la police, on pouvait quasiment pas la critiquer il y a 15 ans. Mais même les bouquins sur la répression ont été plus médiatisés que là, vraiment... Moi, je ressens une vraie omerta. Et là, pour la petite anecdote, parce que je ne suis pas non plus là pour faire mon Calimero, mais je suis tombé sur une chronique très bien écrite de Maudite soit la guerre dans un journal suisse. Le Courrier, qui est un journal catho-humaniste, qui serait classé quasiment centre-gauche centriste en France. Et ils ont fait une super chronique anti-guerre. Ça cite un petit peu le pape qui critique les guerres. Et puis ensuite, il reprend les différents éléments du bouquin. Donc le mec l'a lu, et ça fait plaisir. Mais je veux dire, il faut aller chercher au-delà des frontières françaises pour avoir une chronique sympa. Et en France, vraiment, c'est l'omerta. Alors, est-ce que c'est conjoncturel ? Est-ce que dans 6 mois, 1 an, les médias vont peut-être se réveiller sur le sujet ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce livre, qui était effectivement le premier à sortir au moment des annonces du retour du service militaire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aucun média ne s'en est emparé.
Le livre a un contenu très important, je l'ai effleuré tout à l'heure, c'est-à-dire que tu donnes les chiffres d'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les derniers mois, quoi. C'est un livre très contemporain et c'est son grand intérêt. On peut lire des livres formidables qui disent non à la guerre, non à l'armée, c'est pas beau. Ça, on peut lire tout ce qu'on veut, c'est pas le problème. Parce que c'est un livre d'action. Aussi, c'est un livre d'aujourd'hui et qui propose des actions, parce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire face aux armées ? Je suis démuni, je n'ai pas d'armes, je suis seul. Or, déjà, il y a un mouvement qui s'appelle Guerre à la guerre, je ne sais pas si qui est en train de naître quand même. Mmh. Et puis, on peut agir, c'est-à-dire agir, ce n'est pas prendre les armes et foncer, ce n'est pas se lamenter, offrir des fleurs aux militaires, c'est agir concrètement. L'armée est installée partout en France. Il y a des usines qui fabriquent des armes en France. Et donc, on peut, par rapport à des événements d'actualité, comme par exemple la création d'un ponton, je sais pas comment... un ponton à Bassindre pour emmener les armes au porte-avions à Saint-Nazaire. Là, il y a des actions concrètes qu'on peut mener pour dire on est opposé à la guerre et à ce qu'on tue en notre nom quelquefois des êtres humains qui ne nous ont rien fait. J'ai résumé tout.
Tu résumes très bien. Moi, je trouve ça important de pas justement uniquement produire des essais qui dresse des états des lieux, même si c'est très important de poser des diagnostics sur le monde dans lequel on vit, parce qu'on est dans une confusion. Voilà, on est dans une confusion aussi assez généralisée qui est entretenue par les médias des milliardaires. Ça me semble important de poser un diagnostic, mais aussi de proposer des pistes, même si elles sont pas toujours satisfaisantes. L'idée, c'était un peu d'affronter la question dans les bouquins sur la répression policière. À chaque fois aussi, je consacre au moins toute la fin des bouquins à qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai fait un livre sur les dissolutions aussi, c'est comment résister aux dissolutions administratives. Il y a toujours des fissures, il y a toujours des interstices dans lesquels on peut se loger, et d'ailleurs, il arrive qu'il y ait des victoires, y compris sur la question antimilitariste. Mais effectivement, sur la question de la guerre, même dans les milieux militants les plus chevronnés, on entend souvent, effectivement, ceux qui s'intéressent à l'antimilitarisme, qui est quand même pas la majorité du genre, on entend souvent, mais là, c'est beaucoup trop gros, quoi. C'est un appareil militaro-industriel, mais tu te rends pas compte, on peut pas s'y attaquer, quoi. C'est impossible. Et donc, effectivement, je propose quelques pistes pour ne pas se contenter du diagnostic ni du sentiment d'impuissance, parce qu'il est très fort, là, dans la période actuelle, mais quelques pistes que tout le monde peut s'approprier. Alors, on peut en lister quelques-unes, mais moi, je commence toujours par les choses les plus accessibles et les plus simples. C'est déjà, comme on l'a dit, reconstruire une culture antimilitariste. Et ça, je veux dire, on peut tous le faire autour de nous, c'est-à-dire parodier les campagnes de pub de l'armée, faire des dessins, composer des chants pour les adeptes de la musique. Pourquoi pas des chants d'ailleurs en breton, et rétablir cette tradition antimilitariste bretonne, parce qu'on sait que la Bretagne a payé un lourd tribut lors des guerres. Donc, recréer une culture antimilitariste, ça c'est à la portée de chacun d'entre nous, en parler autour de nous, transmettre. Moi, je pense justement aux générations qui ont connu le service militaire, qui ont connu la guerre d'Algérie, transmettre ces récits-là d'objection de conscience envers les plus jeunes, parce que la plupart n'ont tout simplement jamais entendu parler de ces luttes-là. Donc, et ça, vraiment, on peut chacun le faire à notre échelle. Donc ça, rien que si on arrive à reconstruire un petit peu cette culture antimilitariste en France, on aura déjà un peu plus d'oxygène pour faire des actions. Ensuite, effectivement, il y a des actions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a un slogan qui résume ça très bien, c'est « La guerre se fabrique près de chez vous ». On l'a dit, la France, c'est le deuxième exportateur d'armes du monde. Donc, non, on n'est pas impuissant en France. On a non seulement la possibilité de résister à la fabrication d'armes, mais on en a presque le devoir, puisque c'est sur notre territoire que sont fabriquées quand même une grande partie des armes qui sont en circulation dans le monde, quoi. Il y a des pays qui fabriquent très peu d'armes, donc quelque part, il y a moins de prises. Nous, on en a partout autour de nous. Autour de Nantes, il y a plusieurs entreprises qui, comme Thales, qui fabriquent des armes qui sont utilisées par Israël dans le cadre de l'opération génocidaire à Gaza. Donc voilà, très concrètement là. Donc pour résumer, la France, deuxième exportateur d'armes du monde, il y a plus de 1200 sites industriels liés à l'armement en France. Et il y a une cartographie qui est faite de ces sites par des collectifs comme Stop Arming Israël France. Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste déjà les mettre en lumière. Dire, ah oui, à quelques kilomètres de Nantes, on a une entreprise qui fournit des armes à Israël. Ah oui, en bord de Loire, à la sortie de l'agglomération, on a une usine qui va raser une forêt et aménager le lit du fleuve pour aller envoyer des réacteurs pour un porte-avions nucléaire à 10 milliards à Saint-Nazaire. Allez montrer ce qu'ils font, tout simplement. Ça, c'est déjà un premier pas. Ensuite, ce que font certains collectifs comme Stop Arming Israël, c'est directement aller interpeller les salariés, leur distribuer des tracts, alors sans les stresser non plus, mais leur dire, vous savez ce que vous produisez, regardez ce que ça, où ça va. Et il est arrivé que des salariés soit démissionnent, soit demandent à changer de service pour ne pas être dans le volet armement. Donc voilà, ça participe aussi à une culture. Donc ça, c'est des choses qui existent. Et il y a également, tu l'as dit, une coalition qui s'est créée qui s'appelle Guerre à la guerre. Et Guerre à la guerre est une coalition qui regroupe des dizaines d'organisations syndicales, féministes, écologistes, antifascistes, etc. pour proposer un nouvel antimilitarisme adapté au temps présent, avec une forte sensibilité anticolonialiste. Et cette coalition, effectivement, alors, elle subit elle aussi une omerta. Les médias ont pas très peu parlé de cette coalition, alors qu'elle est quand même... Elle dit quelque chose de notre époque. Et Guerre à la guerre a mené une première grande manifestation contre le Salon du Bourget l'été dernier. Le Salon du Bourget, on parlait tout à l'heure de la France qui était un des épicentres du militarisme. Le Salon du Bourget, c'est un grand salon de l'aérospatial, mais c'est aussi un des plus grands salons de vente d'armes du monde. Je dis bien du monde. Il y a des milliers d'exposants. Les fabricants d'avions de guerre états-uniens, français, enfin Lockheed Martin, Rafale... Enfin, Dassault qui fabrique les Rafales, etc., etc. Il y en a des milliers. Et dans ce salon-là, tous les deux ans, les exposants viennent montrer leurs innovations en termes d'armes et les dirigeants du monde viennent faire leur marché et potentiellement signer des contrats. Et donc, il n'y a pas de quasiment jamais de manifestation contre ce salon. Et l'an dernier, il y en a eu une qui a réuni des milliers de personnes. Donc, c'est un bon début. Évidemment, le salon a été très fortement protégé par la police, mais visibilisé. Déjà, c'est un premier pas pour construire peut-être des mobilisations beaucoup plus massives demain sur cette question.
Pierre, on pourrait parler encore un peu, donner plus de précisions, on va s'arrêter comme ça, mais surtout, il y a une chose qu'on peut faire déjà, c'est lire ton livre, on peut l'acheter.
N'hésitez pas.
Je ne sais pas si on le retrouve dans une bibliothèque actuellement.
Et vous pouvez demander à vos bibliothécaires locaux, j'aimerais avoir ce livre, ils les commandent en général.
C'est donc « Maudite soit la guerre », manuel de résistance antimilitariste de Pierre Douillard-Lefebvre, et ce sont les éditions Divergence, basées à Quimperlé, pour l'anecdote.
Exactement.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.